Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Eh bien, chers frères, le baptême du Christ que nous méditons aujourd'hui a en quelque sorte un fondement, c'est la désignation du Christ par le baptiste. C'est une seule et même chose, et cela est fondamental pour notre vie de chrétien, car cela va nous faire comprendre qui est le Christ, d'une part, et d'autre part, nous en faire vivre à travers notre propre baptême. Je vous propose donc d'abord de voir le baptême du Christ, pour en voir dans un deuxième temps notre propre baptême. Le baptême du Christ, des paroles et des actes. Des paroles d'abord, ce sont celles de Jean le Baptiste. Vous savez, Jean le Baptiste, le dernier des grands prophètes, celui qui va réaliser dans sa personne l'espérance de tous les prophètes d'Israël, qui était de voir venir le Christ, celui qui est oint, celui que le Seigneur désigne pour sa mission. Eh bien, c'est Jean le Baptiste qui a ce privilège de préparer la venue du Christ et de le désigner. Et il dit « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde ». J'ai peur, nous pauvres chrétiens, que parfois nous ne comprenions pas la profondeur incroyable de ce que dit le Jean le Baptiste. D'abord, il le désigne. C'était l'espérance de tout Israël depuis des centaines d'années. Et on se disait « Mais quand va venir le Messie pour sauver son peuple ?» Imaginez-vous que le Baptiste qui est dans le désert, et beaucoup de gens le suivent, ils ont remarqué qu'il était plein de sagesse, qu'il avait une connaissance intérieure de Dieu, qu'il vivait de Dieu, eh bien ils ont pris au sérieux cette désignation, c'est lui, le voilà. Cela a dû bouleverser des vies. Il nous faut nous aussi annoncer le Christ qui vient, car cela bouleverse des vies. Si les vies ne sont pas bouleversées, c'est parce que nous n'osons pas annoncer le Christ. Nous disons « Oui, nous sommes chrétiens, nous avons quelques valeurs, quelques... » Non ! Nous sommes les représentants du Christ et nous avons à annoncer qu'il vient maintenant dans son Église et que cela change notre vie. Voilà l'annonce que le Baptiste va faire. Il n'y va pas à moitié, il a décidé pour cette annonce, pour la rendre crédible, de vivre de rien, c'est-à-dire de manger des sauterelles, d'être habillé de fourrure, de la pagne de bête dans le désert. Eh bien, je vous laisse à chacun, selon l'appel de votre cœur, voir comment il faut que vous puissiez vivre pour rendre sérieux cette annonce que nous faisons et qu'elle soit crédible. Et il dit, c'est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. C'est là où parfois nous ne comprenons pas bien. On a l'impression que c'est une désignation un peu gentille, mais non, ce n'est pas du tout une désignation gentille. Dans le peuple juif, il faut connaître l'Écriture et tous ceux qui viennent au baptiste connaissent bien l'Écriture. Il y a beaucoup de pharisiens et de scribes, des gens qui scrutent, qui veulent savoir. Comme vous, je l'espère, vous lisez l'Écriture tous les jours, 5 minutes. C'est pas beaucoup, mais si vous lisez l'Écriture tous les jours, 5 minutes, eh bien je peux vous assurer que dans 5 ans, vous allez devenir des théologiens et pouvoir dire quelque chose de Dieu, tout simplement. Pas facile de lire l'Écriture, mais avec les pères de l'Église, on y est aidé. L'agneau de Dieu, pour tout bon juif, vous savez ce que c'est. C'est deux choses. Quand il dit « ça, c'est l'agneau de Dieu », immédiatement, il pense « mais bien sûr, l'agneau que nos pères ont mangé en Égypte quand ils étaient esclaves ». Et alors que Pharaon ne voulait pas les libérer, la mort passe dans les rues et frappe tous les premiers-nés. Qu'est-ce qui a sauvé qu'est-ce qui a sauvé les Israélites ? Eh bien, c'est qu'ils ont eu foi dans le Seigneur, qu'ils ont pris un agneau par famille et qu'ils ont mis son sang sur le linteau des portes. Ainsi, Dieu a épargné son peuple. Pour un juif, l'agneau de Dieu, c'est très fort. C'est celui qui va les faire vivre, les sauver de la mort. Mais il y a plus, et d'ailleurs, c'est en raison pour cela, que se poursuivait dans une fête qui existe toujours, mais qui n'est plus célébré de la même manière et qui s'appelle Yom Kippour, c'est-à-dire le jour du grand pardon, le jour où Dieu pardonne à son peuple. Alors on ne fait plus parce qu'il n'y a plus de temple de Jérusalem. Depuis la mort du Christ, 30 ans après, le temple va disparaître. Et que faisait-on au jour de Yom Kippour? On prenait deux agneaux purs, de l'année, des mâles, les plus parfaits sous le regard humain. Et puis on les tirait au sort. l'un allait être envoyé au désert avec une petite boîte sur le dos, symboliquement pour porter les péchés du peuple. C'est le bouc émissaire hein, qui est envoyé, il n'a rien fait, mais il va porter les péchés pour tout le monde. Et puis l'autre agneau qui restait, qui était doublement pur, il était pur parce qu'il était tout beau, tout parfait de l'année, mais il était aussi pur parce que l'autre avait pris les péchés. Et c'est celui-là qu'on offrait dans le temple à Dieu, en expiation pour les péchés. Voilà donc, quand Jean le Baptiste dit du Christ, voyez, c'est pas une simple petite désignation gentille, c'est lui, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, tout le monde a compris qu'il allait mourir pour le peuple, qu'il allait porter les péchés, les engloutir avec sa mort. C'est bouleversant. Alors, il vient pour se faire baptiser après ses paroles des actes. Les actes, c'est de l'eau et de l'esprit. De l'eau d'abord, c'est le baptême que donnait Jean, un baptême de conversion. L'eau est un symbole humain très clair qui sert à laver. C'est l'eau de la vie, c'est aussi l'eau de la mort. L'eau qui coule, c'est la vie, mais l'eau qui stagne, c'est la mort. On le sait bien, nous les prêtres, quand on baptise par immersion, c'est assez rare, mais ça peut arriver. Si on laisse le bébé sous l'eau, c'est la mort. Ce qui le fait vivre, les mères sont toujours très angoissées quand on fait ça d'ailleurs. C'est un curé, il ne sait pas comment ça marche, un enfant, est-ce qu'il ne va pas nous noyer le petit? Alors on apprend quand même, ne vous inquiétez pas. Mais on les plonge, et c'est la mort, c'est l'eau de la mort, c'est de ressortir de l'eau et de voir ruisseler l'eau ruisselante, qui est la vie. Un signe bien humain, mais bien clair. Et le Seigneur va demander à être baptisé de ce baptême. Vous, à Saint-Roch, vous n'avez aucune excuse pour ne pas contempler cette scène. Il y a un magnifique groupe de lemoines qui se trouve dans le baptistère, là-bas, grandeur nature, où on voit Jean le Baptiste en marbre baptiser le Christ. C'est très beau. Mais c'est un signe humain qui signifie qu'on veut être lavé, changé de vie. Mais comment le Christ va baptiser? C'est dans l'esprit. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement matériellement, c'est spirituellement, c'est-à-dire plus réellement encore. Ne soyez pas matérialiste, la matière n'a jamais rien créé. Ce n'est pas la matière qui va créer quelque chose à partir de ce bois sur lequel je mets ma main. C'est l'esprit qui a créé ce bois. En tout cas, c'est en bon, parce que quelqu'un y a pensé et l'a dessiné. C'est déjà l'esprit de Dieu qui a créé la nature, qui a créé les formes naturelles. C'est par l'Esprit de Dieu que toute existence vient, c'est-à-dire que la matière est issue de l'Esprit. En baptisant dans l'Esprit, le Seigneur baptise plus réellement que simplement symboliquement. Il baptise réellement, c'est-à-dire qu'il communique cet Esprit sur qui il est, il repose, il demeure en lui. Alors Jean vit, et il rend témoignage, le Saint-Esprit descendre comme une colombe. On n'a jamais dit que le Saint-Esprit était une colombe. D'ailleurs, c'est une vision, c'est difficile. C'est pour ça qu'il dit « Je vis comme une colombe ». Tout comme à la Pentecôte, on dira « Il se posa comme des langues de feu ». L'Esprit est insaisissable. C'est une manière humaine d'essayer de dire que quelque chose s'est passé, qu'on a vu, mais qu'on ne peut pas vraiment dire. Toutes les véritables visions, d'ailleurs, c'est comme ça qu'on démasque les imposteurs dans les visions surnaturelles, on leur demande de décrire. Et c'est pas trop possible, en fait, parce qu'on a bien vu, mais on peut pas décrire, c'est d'ordre purement spirituel. C'est difficile de bien décrire, sauf quelques éléments. Elle portait une ceinture bleue, dira Bernadette Soubirou, de la Vierge Marie à Lourdes. Mais alors qu'on lui a fait 10, 20, 30, 50 dessins de la Vierge, à chaque fois elle a dit « Oui, oui, c'est à peu près ça. Bon, » à la fin elle a dit « Oui, c'est ça, mais après elle a écrit « Non, en fait, c'est pas ça. » Ce qui est spirituel ne se décrit pas humainement, c'est insaisissable. Alors voilà le Christ baptisé dans l'eau, c'est-à-dire c'est sa nature humaine, sa personne divine qui assume sa nature humaine, qui est descendue dans l'eau pour nous, à l'endroit le plus bas de la terre. C'est un petit détail, mais il se trouve que le Jourdain est à moins 20 en dessous du niveau de la mer. La descente du Christ sur terre que nous venons de méditer à Noël, son sa kénose, dit-on en grec, c'est-à-dire sa descente au plus bas dans l'humanité, se poursuit dans son baptême. Il se fait baptiser au plus bas, dans un fleuve qui n'est pas impressionnant, si vous avez déjà vu des photos où est allé auprès du Jourdain, en Terre Sainte, un fleuve très modeste. Mais voilà, c'est le moyen que Dieu se choisit pour manifester sa gloire. C'est ça, le baptême du Christ. Alors qu'en est-il du nôtre ? Car nous avons été baptisés du baptême du Christ. Un sacrement de vie qui produit des effets. Un sacrement de vie qui nous plonge, certes dans l'eau, car nous avons conservé l'eau pour faire comme le Seigneur. Il a été baptisé dans l'eau, nous baptisons avec de l'eau. C'est le signe matériel. Mais en fait, le signe formel, c'est-à-dire réel, c'est dans l'esprit que nous sommes baptisés. D'ailleurs, le Seigneur avait donné à ses disciples cet ordre, cette consigne. Allez, de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est impressionnant que 2000 ans plus tard, nous continuions de refaire exactement cette consigne que nous avons reçue du Christ avec de l'eau comme il l'a été. Nous baptisons et selon ses paroles, nous baptisons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cette action réelle est un sacrement, c'est-à-dire un signe sacré que l'Église pose, que je pose, mais que Dieu réalise. La meilleure preuve, c'est que quand je baptise, je dis « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Mais l'enfant que je baptise, ou l'adulte d'ailleurs, ne devient pas un adepte de l'abbé Laurent, n'appartient pas à la secte des Laurentiens. Non, il appartient au Christ. C'est moi qui agis extérieurement, matériellement, mais c'est Dieu qui agit formellement par sa parole, parce qu'il est toujours vivant, qu'il est éternel, c'est-à-dire en dehors de l'espace et du temps, et qu'il se rend présent par cette parole efficace qui, auprès de tous les prêtres de toute la terre, ou de tous les diacres d'ailleurs, et même de vous, vous le savez, vous pouvez baptiser en cas d'urgence. C'est tellement important un sacrement que Dieu nous donne de pouvoir l'opérer, même si on n'est pas consacré entièrement à son ministère. Je vous raconte une anecdote d'une nièce baptisée, enfin, qui était née à Dubaï, et dans un endroit difficile d'accès pour les hommes, car ils n'étaient pas admis à aller à la maternité, un endroit où les hommes sont très séparés des femmes. Alors mon cousin avait un souci. Il s'est dit, si mon enfant naît avec un problème et que ma femme n'est pas en état de faire quelque chose dans l'accouchement, est-ce que quelqu'un baptisera mon enfant ? Alors il dit à la sage-femme musulmane, il lui dit, c'est même pas une catholique, hein, musulmane, il lui dit, si jamais cet enfant a un problème, baptisez-la, car nous sommes chrétiens, nous voulons qu'elle devienne chrétienne, baptisez-la, vous prenez de l'eau, vous la versez sur la tête et vous dites, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et la troisième condition, il faut faire ce que veut faire l'Église, c'est-à-dire en faire une chrétienne. Et bien c'est ce qui s'est passé. Cette petite enfant est née avec le cordon autour du cou, ça arrive, donc elle est née toute bleue, elle manquait d'air, quoi, et on ne savait pas si elle allait vivre. Alors la sage-femme, fidèlement, selon l'ordre qui lui a été transmis, prend de l'eau, met sur la tête et dit « Je te baptise au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, pour que tu sois chrétienne, comme tes parents. » Et grâce à Dieu, cette petite fille a survécu. Alors, rentrée en France, dans le sud de la France, c'était, eh bien, on s'est dit, on va la porter à l'église. Mais nous ne l'avons pas rebaptisée. Son vrai baptême, c'était celui-là. Un acte tellement important et essentiel pour la vie que tout le monde peut le donner en cas d'urgence. Alors bien sûr, on a fait tout ce qui manquait, l'onction d'huile, les prières, l'accueil dans l'église, la remise du cierge blanc, du cierge et du vêtement blanc. Mais son vrai baptême a été dans la maternité. Oui, c'est ce qui se passe quand nous sommes plongés dans le Christ, c'est-à-dire faits chrétiens, les Christianus, c'est un surnom qu'on nous a donné à Antioche au IIe siècle, dans les synagogues, parce que c'était les Juifs qui n'arrêtaient pas de parler de Jésus, du Christ. Alors, un peu pour se moquer et pour les différencier, on disait « oui, ça c'est les Christianus, c'est les du Christ ». Voilà. Bon, ils sont Juifs peut-être, mais c'est surtout les Juifs du Christ. Et nous avons conservé ce nom parce que c'était très juste. En étant baptisés, nous sommes du Christ, nous parlons du Christ, nous sommes identifiés à lui, notre seul modèle, et voilà pourquoi, comme lui, nous annonçons ce qu'il a annoncé, le salut pour tous, par sa parole. Voilà ce qui est opéré. Je pourrais encore vous dire, pour finir, pour que le catéchisme soit complet, qu'évidemment, plongés dans le Christ, nous sommes pardonnés de tout péché, y compris de la transmission du péché originel, c'est-à-dire ce désordre intérieur de la nature qui nous est commun, qui nous lie tous et qui, dans le Christ, nous insère dans le salut et puis nous entrons dans l'Église. En fait, ce sont les deux effets identiques du fait que nous sommes rendus chrétiens. En entrant dans le corps du Christ, nous sommes purifiés. Nous entrons donc dans son Église qui se répand jusqu'à la fin des temps sur terre. Réjouissons-nous d'avoir devant les yeux le baptême du Christ comme modèle, d'être nous-mêmes baptisés. Est-ce que vous connaissez la date de votre baptême? Est-ce que vous fêtez la date de votre baptême? Pourquoi pas? Ça fait toujours une fête en plus. C'est toujours sympathique qu'on pense à vous. Moi, je connais la date. C'est un 26 juin que j'ai été baptisé. Eh bien, 1968, eh bien, je vous encourage à regarder la date de votre baptême s'il n'est pas marqué sur votre médaille de baptême, ce qui est pratique, c'est comme ça que je la sais. Eh bien, je vous encourage à fêter, à rendre grâce à Dieu pour, après être né selon la chair, être né selon l'esprit, être fait chrétien, c'est notre joie et notre vie. Ainsi soit-il.